Je vous invite à trouver dans votre Nouveau Testament la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Premier chapitre. Premier verset. Non, on va lire tout le chapitre. Dans quelques instants. L'Église, pourquoi faire? L'Église, à quoi ça sert? J'aimerais vous rappeler, ou peut-être vous informer pour la première fois, qu'il y a trois catégories d'Église. Il y a l'Église universelle, il y a l'Église locale, il y a l'Église glorifiée. Je m'explique. L'Église universelle, pour faire partie de l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église partout dans le monde, il n'y a qu'une chose à faire, se convertir, demander pardon, se donner à Christ. Pour faire partie de l'Église locale, que ce soit rue Sonnera, rue Louis, rue je ne sais pas quoi, il y a souvent une chose à faire après la conversion, se faire baptiser et faire la demande. Dimanche dernier, plusieurs personnes sont devenues membres de cette Église-ci lors de l'Assemblée Générale. Pour faire partie de l'Église glorifiée, c'est-à-dire l'Église dans le ciel, il n'y a qu'une chose à faire, mourir. Nous avons un aperçu de l'Église glorifiée dans le ciel lorsque nous lisons quelques chapitres dans l'Apocalypse, où on voit l'Église en train de louer le Seigneur. Alors ce matin, personne ici ne fait partie de l'Église glorifiée. Vous êtes tous, plus ou moins, vivants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Certaines personnes ici font partie de l'Église locale. C'est-à-dire, vous avez été baptisés. Soit l'Église ici, soit vous êtes membre d'une autre Église ailleurs, peu importe. Certaines personnes ici présentes ce matin font partie de l'Église universelle. C'est-à-dire, vous vous êtes converti à Jésus-Christ. Vous avez demandé à Jésus de vous pardonner et de faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle création. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est me concentrer surtout sur le fait, mais comment peut-on vraiment faire partie de l'Église universelle? C'est-à-dire, on va parler de la conversion. Comment se convertir? Et j'aimerais, pour cela, lire le premier chapitre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Premier chapitre, premier verset, et je lis, ce serait légèrement différent, mais ce n'est pas d'importance. J'ai la colombe. Est-ce que tu as la colombe?
Oui.
Ah, formidable. C'est ça, oui. Paul, Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et un deuxième verset qui se trouve dans au chapitre 2 et le verset 13. 1 Thessaloniciens 2 et le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dans ces versets, nous avons quelques éléments qui nous aident à comprendre ce que c'est la conversion. Quelques éléments qui nous aideront, j'espère à saisir, peut-être pour la première fois, ce que c'est la conversion. Si jamais, pendant que je parle, vous vous rendez compte dans votre cœur que vous n'êtes pas converti, je vous encourage à vous convertir tout en m'écoutant, en vous adressant personnellement à Dieu pour lui demander pardon et pour que Jésus devienne votre sauveur et votre Seigneur. Ça ne me gênerait pas de parler et que tout le monde soit en train de prier. Ça ne me gênerait pas. S'il y a beaucoup de gens qui font ça, je vous encourage à le dire à quelqu'un à la fin du culte. Ou si vous avez du mal à prier vous-même, je vous encourage de venir me voir à la fin du culte. Et s'il y a trop de monde devant mon bureau, vous faites la queue, et puis on va prier ensemble les uns avec les autres. Je souris, mais je suis très sérieux. S'il y a du monde, vous pouvez parler à un ancien ou à un autre chrétien dans cette église pour vous aider à prier pour devenir chrétien. Ce matin, j'aimerais me limiter à deux aspects de la vie chrétienne, ou surtout de la conversion. Et le premier aspect, le premier mot que j'utilise, je le mettrai entre guillemets plutôt, la conversion à Jésus est un détournement. Je vais expliquer ça. Et la deuxième chose que j'aimerais dire selon ce texte, surtout les versets 9 et 10 du premier chapitre, la conversion à Jésus-Christ est une délivrance. Détournement, délivrance. On connaît ce mot détournement, n'est-ce pas? Un détournement d'avion, un détournement de mineur, un détournement de fond. C'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui devait aller là-bas est détourné et va là-bas. Un changement, un détournement, ou si vous préférez, un retournement de situation. Eh bien, Paul dit ici au Thessaloniciens, verset 9, premier chapitre, « Vous vous êtes détournés des idoles, et vous vous êtes convertis à Jésus-Christ. » C'est-à-dire, les Thessaloniciens adoraient des idoles, ils regardaient des idoles, ils priaient des statues, et tout d'un coup, grâce à la foi en Christ, demi-tour. Ils font volte-face. Ils marchaient là-bas, et après la conversion, ils marchent là-bas. Pour prendre un terme biblique, ils étaient sur la route qui allait vers la mort, et ils se sont mis sur la route qui allait vers la vie. C'est ça la conversion. Un changement de direction. Un groupe, il y a une vingtaine d'années, a sorti un chant qui s'appelait « Autoroute vers l'enfer ». ACDC, c'était le groupe, et Highway to Hell. Et c'était un groupe qui était sur l'autoroute de l'enfer, parce qu'ils allaient vers l'enfer, vu la vie qu'ils menaient. Et tout chrétien est conscient qu'avant sa conversion, il était sur l'autoroute qui allait vers la mort. Et après la conversion, il est sur l'autoroute qui va vers la vie éternelle et le pardon des péchés. Alors, les Thessaloniciens, donc c'était une ville en grec, la ville de Thessalonique, aujourd'hui on l'appelle Salonique, eh bien ils étaient tous, au premier siècle, des idolâtres. Dans la ville de Thessalonique, dans le pays de la Grèce, il y avait des statues pour tout. Il y avait des statues des dieux pour le soleil et pour la pluie, pour la naissance, pour la mort, pour la santé, pour la maladie, le travail, le repos, le manger, le boire, tout. Il y avait un dieu avec un petit dé pour tout. Et tout le monde avait des dieux partout dans la maison et des statues partout dans leur ville. Et il paraît que dans la ville d'Athènes, au premier siècle, il y avait plus de statues en ville que d'êtres humains. Parce que les gens étaient tellement superstitieux, ils ont créé une statue, un dieu pour tout. Alors, c'est pour ça que Paul dit, vous vous êtes détournés de vos statues, de vos idoles, vous vous êtes tournés vers le Dieu vivant et vrai. Et ce n'est pas par hasard qu'il emploie le terme vivant et vrai. Parce que les statues, par définition, sont mortes. Les idoles sont mortes. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Ils ont des bouches, ils ne disent rien. Elles sont mortes. Mais eux, ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui parle. Un détournement, un retournement de situation, un chamboulement dans leur vie. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent des statues. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent des dieux, des idoles de toutes sortes. Et un de mes amis était comme ça. Un de mes amis avait des statues dans sa maison. Lui et sa femme adoraient leurs statues. Des Bretons. Lui, Breton, elle, Bretonne, ils avaient des statues dans la maison. Et ils priaient pour leurs enfants devant leurs statues. Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Joseph, Sainte Marie. Et je passe les meilleurs, on va dire. Entre guillemets, bien sûr. En tout cas, un jour, Françoise, en allant au supermarché, elle croise un chrétien qui a un stand avec des Bibles. Elle commence à parler avec ce chrétien et son épouse. Et puis, elle commence à aller au culte. Et elle entend parler d'un Dieu qui est vivant. Et qu'on n'a pas besoin de prier devant des statues. On peut s'adresser à Dieu lui-même au nom de Jésus-Christ. Alors Françoise, elle s'est convertie. Elle a décidé de ne plus prier ses statues. Elle en fait part à son mari, un de mes amis, Michel. Et Michel ne veut rien savoir. Non, j'ai toujours prié devant mes statues, mes parents ont prié devant des statues, mes grands-parents ont prié devant des statues, et je vais continuer. Alors Françoise a eu le courage de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas inviter le pasteur et sa femme à venir lire la Bible avec toi? Alors après quelques mois, Michel a accepté, bonjour, d'accord, j'accepte qu'il vienne. Donc, le pasteur, il venait chaque semaine dans la cuisine chez Michel et Françoise et une petite table de cuisine, le pasteur était en face, Michel et Françoise en face et au milieu, Michel avait mis plusieurs statues entre lui et le pasteur pour embêter le pasteur au maximum. Alors le pasteur, et je le connais bien, je le vois encore dans quelques semaines, il faisait comme s'il n'y avait rien sur la table. Donc il ouvrait la Bible, il lisait la Bible, il expliquait les textes, Françoise pose des questions, Michel agressait ce pauvre pasteur, enfin, ce n'était pas un pauvre pasteur, hein, ce pasteur, et le pasteur priait, la semaine après, rebelote, statue, idole sur la table, Michel et Françoise, le pasteur, et la même chose. Et le pasteur ne s'est pas laissé démonter par cette ambiance. Après quelques semaines, Françoise et Michel ont eu une dispute. Une dispute assez, on va dire, forte. Et à tel point que, pendant la dispute, Michel voulait frapper sa femme, et il ne voulait pas la frapper avec sa main, parce qu'il aurait pu se faire mal. Donc il a dit, je vais prendre quelque chose pour le frapper avec. Il a pris une statue pour frapper sa femme avec un de ses dieux. Et quand il est, et c'est lui qui me l'a dit, quand il est sur le point de la frapper, il s'est rendu compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai mon dieu, ma statue, mon idole, et je vais taper ma femme avec. Alors, sur le champ, il a posé la statue. Il s'est réconcilié avec sa femme. Et il a dit, il faut que je voie le pasteur. Il faut que je voie un chrétien. Il faut que je me convertisse. Et Michel s'est converti. Et une des premières choses qu'il a fait, c'était d'arracher tous les crucifix et de jeter, de casser. Il aurait pu vendre des statues. Mais il a cassé, il a jeté toutes ses idoles. Il s'est détourné de ses idoles. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est converti. Il a laissé tomber son ancienne croyance, son ancienne façon de vivre, il s'est converti à Jésus-Christ. Une question, même si nous n'avons pas tous une conversion radicale comme ça, est-ce que tout le monde ici, ce matin, est vraiment converti? Si vous avez un doute, demandez à quelqu'un tout à l'heure, ou posez la question à Dieu dans votre cœur maintenant. Est-ce que nous sommes tous convertis? La conversion est un détournement. On se détourne d'une façon de vivre et on se tourne vers une nouvelle façon de vivre. Mais la conversion aussi, selon le verset 10, est une délivrance. Vous vous êtes tourné vers Dieu pour attendre des cieux son Fils, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On se convertit, on sert le Seigneur, on aime le Seigneur, on est drôlement reconnaissant envers le Seigneur pour sa grâce, pour sa compassion. On est heureux, joyeux, parce que Dieu nous délivre de la colère à venir. La colère de Dieu, voici un sujet à méditer de temps en temps, même pendant un culte. La colère de Dieu. Il en est question partout dans la Bible. Certains disent surtout dans le livre de l'Apocalypse, mais dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a constamment allusion à la colère de Dieu. Nombre 11, la colère de Dieu s'enflamma fortement. 2 Rois 22, grande est la colère de l'Éternel. Le psaume 21, l'Éternel anéantira les méchants dans sa colère. Ésaïe 53, Jésus, frappé par Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Apocalypse 14, la grande cuve de la colère de Dieu. Il en est question aussi dans Jean 3, Habacuc 3, Nahum 1, 1 Thessaloniciens 2, et ainsi de suite. Partout, la colère de Dieu. Et Paul nous dit ici, vous vous êtes convertis, vous vous êtes détournés des idoles, et Dieu vous délivre de la colère à venir, qui va venir. C'est sûr et certain, aussi sûr que demain il y aura du soleil, même si on ne voit pas, le soleil va se lever. Vous savez, en Écosse, dans mon pays, tout le monde est croyant, parce que tout le monde croit qu'il y a le soleil, sans jamais le voir. Mais ici, c'est sûr, demain, le soleil va se lever. Et un jour, la colère de Dieu va se révéler. Et si on se tourne vers le Seigneur et on demande pardon, eh bien, nous sommes délivrés de cette colère. Il est question ici du retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va venir. Vous le servez, vous l'attendez, et Jésus va revenir. Vous savez, il y a trois mots dans le Nouveau Testament, trois mots grecs qui sont traduits, qui expliquent un aspect de la du retour de Jésus. Jésus va revenir, et j'aimerais souligner trois aspects par rapport à son retour. Un mot, c'est un mot qui signifie le fait de tirer le rideau, ou enlever un rideau. Et imaginez, vous êtes au théâtre, le rideau est fermé, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière le rideau, et puis au début de la pièce de théâtre, le rideau s'ouvre, et vous dites, « Ah, tout ça derrière sur scène, sur l'estrade. » Eh bien, quand Jésus va revenir, il va enlever les rideaux. Et nous allons voir des choses que nous n'avons jamais pu voir avant. Nous allons voir des choses que nous n'aurons jamais pu imaginer derrière les rideaux. Un deuxième mot qui décrit le retour de Jésus, c'est un mot qui était utilisé au 1er siècle, à l'époque de l'Empire romain, pour décrire l'arrivée de l'empereur. L'empereur arrive dans la ville, c'est son apparition. Il vient dans la ville à la rencontre de la population de la ville. Aujourd'hui, si ça se passait, l'empereur serait là pour serrer la main à tout le monde. Il vient à la rencontre du peuple. Et quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à la rencontre de son peuple. Ou peut-être, on peut le dire autrement, son peuple va monter à sa rencontre. 1 Thessaloniciens 4. Une rencontre entre notre roi et son peuple. Et le troisième mot, c'est un mot qui signifie une invasion. Le fait d'envahir un royaume par un autre royaume et de faire en sorte qu'il y ait des changements radicaux. Et c'était aussi une image, quand Jésus va revenir, il va y avoir une invasion des changements radicaux, parce que son royaume éternel va balayer tout le royaume du monde. Un royaume qui envahit un autre royaume. Jésus va revenir. Et les chrétiens sont prêts. Quelqu'un a fait allusion, je crois, à ça dans une prière tout à l'heure. Mais souvent, on parle de cela dans nos prières ou dans nos cantiques. Il va revenir et on doit se tenir prêt. Les Thessaloniciens étaient prêts. Ils savaient que Jésus allait revenir. Ils savaient qu'ils étaient prêts parce qu'ils avaient accepté l'amour, la bonté, le pardon de Dieu que Dieu leur proposait. Je repose la même question que tout à l'heure. Qui ici n'est pas converti? Qui ici doit se convertir? Eh bien, tous ceux qui ne sont pas convertis doivent se convertir. Est-ce que vous êtes tous sûrs d'appartenir au Seigneur? Vous savez, parfois, lorsqu'on se convertit, il y a un changement radical. Comme ce cas de Michel et Françoise, c'est un changement radical. J'ai entendu parler d'un couple, nous étions à Angers hier, et d'un couple en Bretagne qui, d'un autre couple en Bretagne, qui se convertit, et dans leur couple, un changement radical. À tel point que tous leurs enfants se sont convertis. Ils ont dit, on a un nouveau papa, on a un nouveau maman, depuis qu'ils se sont convertis. Et nous, on veut croire en ce Dieu-là. Un changement radical. Parfois, quand quelqu'un devient chrétien, c'est pas toujours radical. Parfois, c'est un peu comme un processus. Ou parfois, certaines personnes, quand ils deviennent chrétiennes, il n'y a presque aucun changement. Parce que la personne, avant sa conversion, était déjà honnête, gentille, bon père de famille, bon mari, bonne maman de famille, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui me disent, David, moi j'ai pris pour telle personne de ma famille, tout ce qui lui manque, c'est le Christ. Il est tellement bien, tellement gentil, tellement serviable, et ces gens-là, quand ils se convertissent, il n'y a plus de changement. Mais le changement s'effectue au niveau du cœur. Une nouvelle relation avec le Seigneur. Il y a des gens qui disent, mais ma conversion, c'est un peu comme mon jour de mariage. Ça fait drôle, hein? Le jour de mon mariage, j'ai dit oui devant Monsieur le maire, tel jour, telle heure, telle année. Il y a des gens qui disent, mais je me suis converti, j'ai dit oui à Dieu, tel jour, telle heure, telle année. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus flou. On ne peut pas dire quel jour je me suis converti, quel jour je me suis donné à Dieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas de savoir quel jour ou quelle date, mais de savoir que c'est fait. On est à Christ. On lui appartient. Est-ce que nous sommes tous convertis? On peut être même on est élevé dans une famille de chrétiens, une famille évangélique, sans connaître la conversion. On suppose qu'on est converti, mais ce n'est pas le cas. Je termine avec une histoire au sujet d'un couple qui... c'est un couple qui était assez pauvre, il ne savait pas lire, ni lui ni elle. Les deux ne savaient pas lire. Mais un jour, quand ils étaient en ville, ils ont croisé un fanfare. Trompette, une fanfare, hein? Oui, une fanfare, merci. Trompette, basson et tout le reste, tambour, et c'était l'année du salut. Et ils chantaient, ceux qui avaient des trompettes ne chantaient pas, bien sûr, mais ils chantaient, et ce couple était interpellé par le son, la musique, la qualité, et aussi les paroles. Donc, tous les samedis, ils ont dit, mais ces gens-là sont là tous les samedis, on va aller les écouter. Ils vont les écouter. Et puis, ils commencent à aller au culte. Et ils se rendent compte qu'en allant au culte, tout le monde avait un pull de la même couleur. Sauf eux. Un pull rouge à l'époque. Et ils ont dit, oui, on est un peu différents des autres. Hein. Ils ont tous un pull rouge. Heureusement qu'on ne s'habille pas de la même manière dans nos églises. Mais là, ils avaient tous un pull rouge, sauf ce couple. Donc ce couple a commencé à se poser des questions. Et puis, ils se sont dit, mais il faut qu'on réfléchissent par rapport à Dieu, ils parlent de la Bible, ils parlent de la conversion, ils ont écouté des messages, ils ont pu, à l'époque, il y avait des cassettes, Donc ils achetaient des cassettes pour écouter la Bible qui était lue. Et le couple s'est converti. Tous les deux. Formidable. Ils continuaient à aller au culte. Mais ils disaient, mais on est quand même différents. On n'a pas un pull rouge. Donc ils ont dit, mais la dame savait tricoter. Elle a dit, mais je vais tricoter un pull pour moi, mon mari et moi, et on sera comme les autres. Donc elle tricote un pull rouge, mais elle s'est rendue compte que les membres de l'armée de salut, ils avaient quelque chose qui crie sur le cœur, en blanc. Donc elle a dit, mais qu'est-ce que je peux, elle ne savait pas écrire, mais en tricotant, on peut écrire. Elle a dit, bah, je vais écrire quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux écrire? Donc, ils habitent en face d'un magasin. Alors, elle dit, mais je vais copier ce qui est écrit sur la devanture de la boutique en face de chez nous. Donc, après beaucoup d'heures de patience, elle tricote et elle copie ce qui est marqué. Et elle écrit ici, elle finit le pull. Et les deux vont au culte le dimanche suivant, fiers d'avoir un pull rouge. Signe de la conversion, pensait-il. Ils arrivent au culte. Et le président les voit arriver, et le président commence à rigoler. Et puis il leur dit, est-ce que vous voulez bien venir devant? Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est parce qu'on a tous le même uniforme. Donc, ils viennent devant, ils se retournent, et toute l'assistance se met à rire. Et vous savez pourquoi? Parce que la dame avait copié ce qui était sur la boutique. Et la boutique, elle ne savait pas, venait d'être vendue. Donc, elle avait copié et tricoté sur le cœur « Changement de propriétaire ». Le président de culte, il a dit, mais voilà, merci Nathalie d'avoir rigolé. Il a dit, voilà ce que c'est un chrétien. Le Dieu était là, une leçon de choses, comme on disait autrefois. Voilà, ils ont un changement de propriétaire. Et c'est au niveau de leur cœur. Leur cœur, leur vie n'appartient plus à eux, mais appartient à Christ. Et c'est ça l'ennemi de conversion. On change de propriétaire. Ce qui veut dire qu'avant, on appartenait à quelqu'un d'autre. On était dans les mains. Et on a chanté ça tout à l'heure. On était enchaînés. Et Dieu nous a libérés de nos chaînes. Nous étions esclaves d'un mauvais maître. Et Dieu nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a permis d'avoir un changement de propriétaire. Je conclue. L'Église glorifiée, pour l'instant, personne ici ce matin n'en fait partie. Mais un jour, tous ceux qui sont convertis feront partie de cette Église-là. Qui n'est pas converti ce matin? Qui a besoin de dire, Seigneur, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de mes habitudes. Délivre-moi de ma vie sans but. Pardonne-moi mes péchés. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quand vous vous convertissez, dites-le à quelqu'un. Et la personne va à la fois se réjouir avec toi et prier pour toi. Et d'autres vont prier aussi. Terminons par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car malgré nos vies, nos pensées peu glorieuses, malgré nos péchés, tu nous aimes. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous sauver et pour nous délivrer de la colère à venir. Seigneur, nous voulons prier pour celles et ceux dans cette pièce qui n'ont pas encore connu ce détournement et cette délivrance. Cette conversion, nous prions que tu parles à leur cœur pour leur montrer, par ton Saint-Esprit, qu'ils ont besoin de se repentir et de changer et de se tourner vers toi. Et pour nous qui sommes déjà à toi par grâce, nous te prions de nous aider à nous réjouir de notre vie en toi et aide-nous aussi à nous confier en toi pour nos difficultés, pour nos épreuves, pour notre avenir, parce que nous savons que toi, tu nous conduis. Tu es un bon berger pour chacune de tes brebis. Et nous t'en remercions. Amen.